au 1047 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant. Avec Louis-Philippe Brûlé.
OK, droit du travail, dernière chronique de l'année, évidemment. Deux sujets qui s'imposent cette semaine avec notre spécialiste, Maître Philippe Coderre. Salut, Philippe.
Salut, LP.
Écoute, on va commencer avec le vaccin. Là, tu nous avais fait une chronique là-dessus plus tôt cet automne, mais on était dans des scénarios hypothétiques. Là, c'est vrai, là, le vaccin est arrivé. On voit d'ailleurs que certains employés du réseau de la santé qui le refusent pour l'instant. Le gouvernement ne veut pas l'imposer pour tout de suite. On verra la suite. Il y a peut-être certaines entreprises, Philippe, qui pourraient tenter de l'imposer à leurs employés. Rappelle-nous ce que la loi prévoit à cet effet-là.
Oui, ben en fait, c'est le fun de la COVID. Hein. Ça me permet de recycler mes chroniques à chaque deux mois, tellement que les sujets
évoluent. Ben oui.
Oui, tout à fait. Donc, pour les vaccins, en fait, la règle de base, c'est que c'est absolument interdit pour quelque employeur que ce soit d'imposer le vaccin à ses employés. En termes d'intrusion dans la vie privée de quelqu'un, c'est pas mal ce qu'on peut faire de plus extrême, de forcer quelqu'un à s'injecter quelque chose dans le corps. On peut faire peut-être un parallèle avec les tests de dépistage aléatoires. Donc, quand un employeur, par exemple, soupçonne que quelqu'un travaille avec les facultés affaiblies, il peut, dans certains cas, imposer le test de dépistage, donc la prise de sang. Mais il y a des critères qui entourent ça. Donc, c'est pas une loi qui entoure ça, c'est les critères qui entourent ça, qui émanent du droit à la vie privée puis à l'intégrité physique des employés. Puis ces critères-là, normalement, ben on doit faire la preuve en tant qu'employeur qu'on est dans un milieu de travail à risque, que c'est absolument essentiel et nécessaire pour la protection et la santé et sécurité des employés. Donc, c'est pas mal ça, la règle de base. Et je vous dirais qu'au niveau de la vaccination, quand on fait la pondération, la balance des inconvénients entre forcer les employés à s'injecter quelque chose dans le corps et, par exemple, leur permettre de ne pas le faire. Vraiment, moi, je pense que ça va militer en faveur du droit des employés de décider oui ou non s'ils veulent pas se faire vacciner. En revanche, ce que l'employeur pourrait faire, surtout dans le réseau de la santé, par exemple,
oui,
c'est juger que, bon, toi, tu avais des corps de travail auprès d'une clientèle vulnérable. Ben, t'as pas le droit de retourner à cet emplacement-là si tu te fais pas vacciner. Et tant que la COVID ne sera pas résolue. Ça, on appelle ça des mesures administratives.
Donc, on t'affecte à d'autres tâches.
D'autres tâches ou d'autres secteurs. Ça, c'est les employeurs qui vont faire, j'imagine, du cas par cas puis évaluer leur situation à eux. Mais on avait déjà vu ça avec H1N1 dans le temps, là. Donc, il y avait des gens du système de santé qui voulaient pas se faire vacciner contre l'influenza. Et finalement, là, l'établissement, je crois que c'était en Gaspésie, avait dit, ben parfait, vous ne pouvez pas travailler pour 3 jours dans cet établissement-là en question parce qu'il y a de l'éclosion, puis je peux pas te replacer ailleurs. Donc, t'es pas payé pour ces 3 journées-là. Il y avait eu un grief et l'établissement avait gagné. Donc, c'est les mesures qu'un employeur pourrait peut-être faire, c'est-à-dire, moi, je juge que mon environnement de travail est à risque. Je ne veux pas prendre de chance. Je veux éviter toute situation qui pourrait mettre en danger mes employés ou ma clientèle. Donc, tu ne veux pas te faire vacciner, pas de trouble. Je vais te donner d'autres tâches ou je vais te placer ailleurs le temps que la pandémie passe, essentiellement.
Ouais.
Donc, ça pourrait pas mal être la limite supérieure, puis encore là, ça pourrait être contesté.
On a hâte de voir dans les CHSLD, si jamais il y avait un taux de refus des employés assez important dans certains centres, le gouvernement, lui, en vertu de la loi sur les mesures sanitaires, pourrait décider de le rendre obligatoire. On n'est pas là du tout. Le gouvernement, je le disais, ne souhaite pas aller là, évidemment, mais le gouvernement, lui, aurait ce pouvoir-là, Philippe.
Tout à fait. Donc, ça, c'est les gens ne le savent pas tout le temps, là, mais le gouvernement, en matière d'urgence sanitaire, a à peu près tous les pouvoirs, dont le pouvoir d'obliger la totalité de la population à obtenir ce vaccin-là. T'sais, je ne sais pas si la COVID, c'est vraiment la maladie qui va être propice à cela, mais supposons qu'on avait une éclosion d'Ebola partout au Canada, puis que ça dégénérait. Peut-être que là, le gouvernement dirait, avec le taux de mortalité associé à l'Ebola, je force tout le monde à se faire vacciner contre l'Ebola. Est-ce qu'il va faire ça au niveau politique? Je ne le sais pas, mais il a certainement les pouvoirs de le faire.
Bon, ça va être à surveiller. Je sais que certaines entreprises, notamment là, des travailleurs qui sont dans les mines dans le Nord, donc qui quittent, exemple, l'Outaouais pour aller dans le Nord pour un 10-14 jours, qui se faisaient imposer des tests de dépistage avant d'arriver dans les communautés là-bas dans le Nord, là, dans les mines. Mais comme tu dis, c'est pas la même chose, c'est pas aussi intrusif qu'un vaccin. Et ce qu'on sait pas, est-ce que ça a été contesté par certains employés? Ça, j'ai pas l'information non plus, là.
Ben exactement. C'est certain que c'est moins intrusif. Quand on viole un droit fondamental, puis on a fait plusieurs chroniques là-dessus cet automne, les droits fondamentaux, on peut toujours y porter atteinte là, à certains égards, quand c'est justifié dans une société libre et démocratique, quand j'ai des motifs raisonnables de porter atteinte à ta vie privée ou à ton intégrité physique. Par rapport aux tests de dépistage obligatoires, ben possiblement que les employeurs de ces milieux-là disaient que c'est des emplois à risque, dans un milieu de travail dangereux. C'est une région éloignée. On ne peut pas prendre de chance que des gens là, qui arrivent de la ville viennent contaminer cette communauté-là parce que ça va être vraiment l'hécatombe. Alors, possiblement que c'est les critères qu'ils ont utilisés pour justifier ça. Mais même les tests de COVID, on ne peut pas penser que parce que dans certains secteurs, ça a été fait, qu'on peut faire ça tout le temps. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont certainement contester ces mesures-là. Ouais.
Puis ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas un laissé-passer pour toutes les entreprises non plus, là.
Exactement. Puis c'est pas parce qu'une entreprise le fait que c'est valide, parce qu'il n'y a pas eu de contestation. Ou s'il y en a eu, ça n'a peut-être pas été entendu encore par les arbitres.
Et s'il y en avait une, le fardeau de la preuve là, reviendrait à l'entreprise de dire ben voici pourquoi je pense que j'étais justifié d'agir comme ça.
Tout à fait, exact. Parce que là, on vient modifier en plus les conditions de travail, on vient poser quelque chose de supplémentaire, et en plus, on force quelqu'un là, à s'injecter quelque chose dans le corps ou à passer un test de dépistage, ce qui est vraiment une attaque à l'intégrité d'un employé.
Oui, même le test COVID là, avec les couvillons, c'est quand même assez intrusif. Là. Les tests rapides de salive qui vont sortir bientôt, ben ça, c'est peut-être autre chose. Ça va être à surveiller. Bon, deuxième sujet, Philippe, Hockey Québec. Il y a eu des reportages récemment à l'effet que le climat est toxique pour les employés depuis 4 ans, depuis l'arrivée, en fait, de Paul Ménard au poste de directeur général. Hockey Québec, au début, a un peu nié la problématique, mais là, on annonce une démarche de médiation auprès du ministère du Travail. Explique-nous d'abord comment ça fonctionne, ce processus-là.
Oui, mais ça, c'est un processus qui est offert aux parties lorsqu'elles sont syndiquées. Normalement, on fait une demande conjointe, on remplit un formulaire et on demande l'aide d'un médiateur conciliateur. Bon, on peut viser certains sujets. Des fois, moi, souvent, les cas où je les fais, c'est quand j'avais plusieurs griefs à traiter avec un même syndicat. Souvent, là, on se dit, bon, ben tant qu'à faire 10 audiences pour ces 10 griefs-là, on essaie-tu cette conciliation-là à l'avance? Dans ce cas-ci, il semble faire ça pour justement faire la lumière là, sur les relations de travail. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est très bénéfique. Je pense que ça permet d'avancer dans ces dossiers-là. Souvent, quand on a un client de part et d'autre qui ne s'entend pas avec la partie adverse, quand bien même son avocat essaie de le calmer, des fois, il ne nous écoute pas. Et quand on arrive dans un forum où il y a une tierce partie neutre qui intervient, qui donne son opinion, qui essaie de concilier les intérêts des uns et des autres, souvent, c'est un très bon forum là, pour crever l'abcès puis repartir sur des nouvelles bases. Naturellement, la condition à une belle et bonne médiation, il faut que les parties, ça leur tente d'être
mais
là.
Mais oui, il faut qu'il y ait un peu de volonté de part et d'autre, là.
Ben exactement. Ouais. Si on fait juste ça pour un show de publicité, c'est certain que ça fonctionnera
mais
pas.
Philippe, pourquoi c'est juste pour les syndiqués? Une entreprise non syndiquée où il y a, je sais pas, moi, un problème de relation de travail qui touche plusieurs employés, est-ce qu'il y a quelque chose de semblable?
Ben en fait, en matière de privé, là, on peut recourir à des méthodes, à des conciliateurs, médiateurs privés. Donc, j'en ai dans certains dossiers actuellement. Là, je mandate des gens à l'externe qui vont venir faire une médiation collective là, dans un dossier X. Mais quand on est syndiqué, le Code du travail prévoit ces recours-là du ministère du Travail. Donc, souvent, c'est pour ça que les gens vont utiliser celui-là. Mais quand on est au privé, il n'y a rien qui nous empêche de recourir à un médiateur privé. Puis quand il y a des plaintes aux normes, ben là aussi, il y a un service de médiation qui est offert. Là. Mais s'il n'y a pas de plainte, puis on veut juste être proactif, normalement, ce qu'on recommande aux gens, aux entreprises privées, c'est de mandater quelqu'un d'externe qu'on paye et qu'on lui permet là, d'essayer de concilier les intérêts de tous.
Philippe, c'est moins spectaculaire qu'un congédiement ou qu'un procès, évidemment, mais je sais que c'est une méthode là, de plus en plus populaire, de plus en plus utilisée dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a des statistiques sur le taux de succès, les chances de réussite?
J'ai pas de statistiques. Moi, je vous dirais que les chances de réussite dépendent souvent du médiateur. Et c'est plate, là, parce que je pèle la pression dans leur cours. Mais il y a des médiateurs qui sont interventionnistes. Il y en a qui ne le sont pas. Les meilleurs sont ceux qui vont s'ajuster à leur auditoire, donc les parties en présence. Et quand on a un vraiment bon médiateur, là, et que les parties sont là parce qu'elles essaient vraiment de régler un problème puis de limiter les frais d'un litige, je te dirais là, que normalement, on va régler une bonne partie des dossiers.
Fait que la première étape, c'est de gérer les émotions de tout le monde, au fond.
Exactement, parce que c'est émotif. Hein? Droit du travail, je suis tout le temps. Là,
ben oui.
C'est le droit familial là, des relations commerciales.
Ouais.
Parce que c'est aussi émotif. On parle de divorce professionnel souvent, on parle d'harcèlement, d'intimidation, etc., etc. Les deux parties en ont gros sur le cœur, donc souvent, c'est pour ça que le médiateur va être assez efficace. Mais j'ai vu certains médiateurs qui ont plus de difficultés à régler leurs dossiers. Ça, je l'ai vu aussi. Le médiateur là, a un gros rôle dans ces dossiers-là.
Très intéressant, Philippe. Merci beaucoup pour la collaboration. Passe de joyeuses fêtes avec la famille et on se reparle en janvier.
Exactement. Joyeuses fêtes à toi et à toute l'équipe du 147. Là. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Puis je souhaite que à l'hiver, on puisse enfin faire les chroniques en personne, là, parce que question qu'on puisse jaser des sénateurs un peu avant qu'on fasse la chronique.
Ouais, ben écoute, c'est un dossier réglé. On a des plexiglas maintenant en studio. Ça fait que pas de problème, on t'attend en studio en janvier.
Bon, ben c'est super. Merci beaucoup.
Merci, Philippe. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.